Voici le journal d'Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour. Il recule encore. Emmanuel Macron va faire une croix sur le référendum qui devait changer la Constitution, inscrire la lutte contre le réchauffement climatique dans l'article 1. La droite au Sénat fait barrage. Le chef de l'État n'insistera pas. Un projet climat déjà très critiqué. 150 marches aujourd'hui prévues un peu partout en France. Plus que le climat, la sécurité en haut de l'affiche à un an de la présidentielle. Syndicat de police reçu demain à Matignon. Et hommage cet après-midi à Avignon au brigadier tué cette semaine au cours d'un contrôle anti-drogue. Dans l'actualité encore, 10 jours, tout pile avant la France, la Belgique rouvre ses terrasses, un avant-goût de ce qui nous attend. L'Écosse, la victoire des indépendantistes qui font pression sur Boris Johnson. Le foot, 3 montants Ligue 1, du skate dans Esprit Sport. Et alerte aux avalanches en Savoie, aux orages et aux vents violents dans le sud-ouest. Météo complète à la fin de ce journal.
À 8h20, on va parler de nos mères avec le pédiatre Aldo Naouri qui vient d'écrire « Ma mère, mon analyse et la sienne ». Et aussi notre consoeur de France Inter, Eva Béton. Temps pour son livre « Le goût de nos mères ».
France Inter.
Manque d'ambition, largement insuffisant, pas à la hauteur des enjeux. Une cinquantaine seulement des 149 propositions de la Convention citoyenne retenues par le gouvernement. Le projet de loi climat et résilience, adopté mardi à l'Assemblée, concentrait déjà toutes les critiques des écologistes. 150 marches pour le climat organisées partout en France aujourd'hui. Et on peut parier qu'elles feront le plein. Car voilà une deuxième claque. Le référendum promis par Emmanuel Macron sur un changement de constitution n'aura pas lieu. Ce n'est pas officiel, mais c'est acté selon le journal du dimanche. Et à Elgoz, le chef de l'État renonce et fait porter le chapeau à la droite.
Mi-avril, l'optimisme était encore de rigueur au ministère de la Transition écologique. Il y aura un référendum à l'automne, on bouclera la boucle, promettait Barbara Pompili. C'était sans compter sur l'état des forces au Parlement. Pour tenir sa promesse, Emmanuel Macron devait obtenir un vote conforme des deux chambres. La République garantit la préservation de l'environnement, ça c'est la version adoptée mi-mars par les députés, copier-coller de la Convention climat. Restait à franchir l'étape du Sénat, et là dès jeudi en commission, c'est la douche froide, le texte est réécrit, exit le verbe garantir, remplacé par préserver. Pour les sénateurs LR, l'écologie ne doit pas primer sur l'économie. C'est donc l'impasse. La droite LR domine au Sénat et au-delà du fond, pas question pour elle d'offrir à Emmanuel Macron l'opportunité d'un référendum, surtout si près de la présidentielle. Le vote en séance au Sénat aura lieu demain. Sauf énorme surprise, il officialisera le désaccord. Le texte repartira à l'Assemblée pour y être corrigé, mais ces navettes, ce ping-pong sans fin, mettraient l'initiative hors délai. Chez les marcheurs, on rejette évidemment la faute sur LR, mais c'est perdant aussi pour le président, lui qui cherche à s'allier à la droite, au régional, une tâche aussi dans le bilan vert du quinquennat.
Yael Gauss, chef du service politique de France Inter.
Ouais, et peut-être plus que le climat, c'est le thème de la sécurité qui, encore une fois, semble prendre le pas à un an de la présidentielle.
En marge du sommet social européen hier, Emmanuel Macron a une nouvelle fois apporté son soutien sans faille à toutes les forces de sécurité intérieure. Les syndicats de police reçus demain par le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Mais ce matin dans la presse, le père d'Éric Masson, ce brigadier tué à bout portant mercredi à Avignon au cours d'un contrôle anti-drogue, demande à ce que personne ne récupère ce drame à des fins politiques. Trop tard, nous dit Bruno Cotterêts, chercheur et professeur à Sciences Po. Mais sur ce sujet, nous dit-il, Emmanuel Macron marche sur un fil.
Toute la difficulté pour le chef de l'État, c'est de venir sur ces thèmes sans pour autant tomber dans un piège politique qui pourrait être terrible, qui serait au fond lui-même d'alimenter les thèmes sur lesquels le Rassemblement national est perçu par les Français comme étant un peu plus, on va dire, à domicile. Et quand on regarde les statistiques de l'évolution de la délinquance, on voit en particulier qu'en 2020, toutes les formes de délinquance ont été en recul, sauf les violences familiales ou les violences sexuelles, avec une augmentation très importante de ce point de vue-là. Et donc il s'agira sans aucun doute pour le chef de l'État de redonner à cette thématique de la lutte contre les violences contre l'insécurité, une tonalité et une dimension qui ne soit pas exactement celle que lui donnera Marine Le Pen. Et donc la tâche pour lui n'est pas totalement aisée de ce point de vue-là, parce que c'est vrai que Marine Le Pen va sans aucun doute occuper très fortement ce thème.
Le chercheur Bruno Cotterêts avec Victor Maté, et hommage à ce policier victime des dealers cet après-midi 14h devant le commissariat d'Avignon. Le tueur est quant à lui toujours en cavale. On se souvient encore des images, 1er décembre 2018, en pleine manifestation de Gilets jaunes à côté de la place de l'Étoile à Paris, des militants matraqués dans un Burger King, 3 ans et demi plus tard. trois nouveaux CRS viennent d'être mis en examen, placés sous contrôle judiciaire. À l'étranger, ces trois attentats à la bombe hier, tout près d'une école pour filles à Kaboul, Afghanistan, dans le sang, 50 morts au moins le bilan ce matin, une semaine après le début du retrait des derniers soldats américains. Et puis c'était prévisible, nouveaux affrontements hier soir entre policiers israéliens et manifestants palestiniens dans Jérusalem-Est, et même échange de tirs entre Gaza et Israël. Les Palestiniens, appelés par le Hamas à rester sur l'esplanade des mosquées jusqu'à jeudi matin, fin du Ramadan, pour dénoncer le projet d'expulsion et de colonisation d'Israël. Au moins 90 blessés hier, 200 vendredi soir dans les pires violences de ces dernières années. Le Super First Day, les élections locales au Royaume-Uni jeudi dernier, avec en Angleterre le raz-de-marée des conservateurs, sauf à Londres, où le maire travailliste sortant, Sadiq Khan, a été réélu, résultat cette nuit. En Écosse, et ça y est, c'est officiel, le parti indépendantiste, le SNP, arrive lui une nouvelle fois largement en tête, même s'il rate d'un cheveu la majorité absolue au Parlement. Opposé au Brexit, il réclame un nouveau référendum pour se séparer de la couronne et met la pression sur Boris Johnson. Correspondance Richard Place.
Le SNP rate son pari de peu, mais décroche une plus grande majorité encore que lors de la législature précédente. La percée des écologistes fait les affaires de Nicola Sturgeon. La première ministre écossaise sait qu'elle peut compter sur le Green Party, qui soutient le projet de référendum. La voici donc désormais en campagne pour mettre Londres sous pression.
En aucune manière, un référendum ne peut être décrit comme une simple demande de ma part ou de mon parti. C'est un engagement pris par une majorité claire de députés qui ont été élus au Parlement national. C'est la volonté du pays.
Toute la campagne du SNP, avant ces élections, était axée sur l'indépendance. Les électeurs savaient très bien pourquoi ils votaient. C'est ce que met Nicola Sturgeon dans la balance. En face, Boris Johnson était inflexible avant même de connaître le résultat. Il qualifie cette idée de référendum d'irresponsable. Il s'appuie sur le dernier, organisé en 2014, il y a 7 ans seulement. Le non l'avait emporté. Pour le Premier ministre britannique, fin de l'histoire, puisqu'il affirme que l'on n'organise qu'un référendum par génération. Londres, Richard Place, France Inter.
Le Royaume-Uni et les prédictions de son ancien monsieur vaccin dans les colonnes du Télégraphe. Le virus, dit-il, ne circulera pas cet été outre-Manche. Tous les adultes britanniques auront reçu au moins une dose d'ici juillet. De ce côté-ci de la mer, eh bien, c'est moins gagné. 17 millions de personnes ont à ce jour reçu une première injection. Mais pour maintenir le rythme, il faut vraiment que les plus de 55 ans se fassent vacciner avec l'AstraZeneca, l'appel hier de Jean Castex. Le Premier ministre répète qu'il y a encore 2 millions de doses endormis dans les frigos. Certes, le Covid est en lente décrue. Pour la première fois depuis mi-février, le taux d'incidence repasse sous les 200 cas pour 100 000. Mais le déconfinement par étapes est jugé plus politique que sanitaire par une vingtaine de médecins et de chercheurs. Tribune publiée ce matin, le gouvernement qualifié de trop permissif. Voilà qui ne devrait pas rassurer ces médecins. Comme un avant-goût de ce qui nous attend dans 10 jours, tout pile. La réouverture des terrasses, hier en Belgique, en route pour l'Orge, c'est un reportage à Bruxelles signé Jérôme Jadot.
Il est à peine 14h à la terrasse de la Halle Saint-Gély, mais Alia, 26 ans, en a déjà bien profité.
Des apéroles, du Pimm's, de la Hoegaarden, de la Chouffe, des Mimosas, la liste est longue.
Alia et ses amis ont prévu de continuer ainsi, à 4 maximum par table, jusqu'à la fermeture à 22h. Besoin d'être déraisonnable pour Axel, privé de sortie depuis 7 mois.
On attendait beaucoup de jours avec impatience. On a prévu de picoler toute l'après-midi et passer du bon temps entre nous. À la Belge, quoi. Même s'il pleut, bon, on reste en Belgique, nous on s'en fout. On sent vraiment que ça commence à démarrer et tout, et ça fait du bien, quoi.
Du baume au cœur, des cafetiers également. Sébastien de Yonne y a le sourire, malgré quelques soucis d'approvisionnement et de recrutement.
En général, les petits couacs ne se voient pas pour l'instant. Maintenant que les bars sont réouverts, les gens vont plus facilement venir déposer des CV. Il y a beaucoup de produits que les gens n'ont pas eu le temps de produire. Sur notre carte, il doit manquer une petite dizaine de bières.
Ce qui n'a pas empêché Laurent d'en trouver une à son goût, tout en ayant une pensée pour les Français qui vont devoir encore patienter.
Tenez le coup, sinon venez jusqu'en Belgique boire un petit verre. C'est la même chose que j'ai fait moi la semaine passée. J'ai été en Hollande pour aller boire déjà un petit verre.
Les autorités belges précisent toutefois que si les voyages depuis l'étranger sont possibles, ils ne sont pas recommandés.
L'Europe se déconfine et l'Asie plonge. Le virus contamine des pays jusqu'ici épargnés, le Cambodge, le Laos ou encore la Thaïlande, qui a pourtant depuis le début adopté une stratégie zéro Covid. Avec l'apparition des cas, Bangkok prend des mesures drastiques, interdit de se réunir à plus de 2 personnes pour boire de l'alcool, y compris chez soi sous peine de 2 ans de prison, et masque obligatoire même en voiture, même à moto. En bref, le vrai faux suspense sur quelle tête la fusée chinoise de 18 tonnes allait-elle tomber? Eh bien une grosse partie, tout le premier étage, s'est désintégré cette nuit dans l'atmosphère au-dessus de l'océan Indien. Et puis de quoi simplifier la vie des parents. Décret publié hier, c'est la fin du sacro-saint certificat médical quand on doit inscrire son enfant dans un club de sport. Désormais, un simple questionnaire suffira. Enfin, brancher la guitare, l'instrument chouchou des Français. Les ventes ont bondi avec les confinements, plus 20%. Thibaut Covin, lui, est l'un des plus grands joueurs classiques du monde et il vient de sortir un album dédié au cinéma avec les musiques de ses films préféré. Le spectre est large, Stéphane Capron, mais que du bon, des valseuses à Midnight Express.
On peut dire que Thibaut Covin est né une guitare à la main. Son père, Philippe, a créé dans les années 70 plusieurs groupes de rock progressif. Thibaut, lui, a étudié sans relâche la guitare classique dans les conservatoires. Avec cet album éclectique, il fait tomber les barrières à sa virtuosité légendaire. Il y ajoute la technologie.
J'ai enfin mêlé ces deux mondes. Donc il y a ma guitare classique, toujours avec ce son que j'aime, cette technique un peu ancestrale, qui est sur certains titres greffée à la production d'aujourd'hui, à du travail de son, toutes les pédales d'effet des guitares électriques que je découvre là et qu'on a connectées à ma guitare classique, qui donne quelque chose d'un peu étonnant, sans limites, sans frontières, un mélange de plein de choses et dont l'objectif est le rêve absolu.
Thibaut Covin a réuni dans l'album les musiques de ses films de chevet.
C'est des films qui ont marqué ma vie à différentes époques, qui ont pu me toucher quand j'étais enfant, qui ont un parfum de voyage. Vraiment, j'ai choisi ces films juste guidés par mon cœur et des thèmes qui sont somptueux, qui se trouvent être des thèmes de cinéma, mais qui sont des thèmes de grande musique.
Au milieu de toutes les musiques iconiques, Thibaut Covin a invité la comédienne Nadia Terezievitch à reprendre la magnifique chanson d'Hélène, immortalisée par Romy Schneider dans Les choses de la vie de Claude Sauté.
Et l'album film de Thibaut Covin, ça sort chez Sony Music.
Sur France Inter, 8h12, c'est l'heure des sports.
Le foot avec 3 sacrés champions de Ligue 2, victoire hier 2-0 face à Dunkerque, ça veut dire aussi la cour des grands l'an prochain, 3 montent en Ligue 1. Euphorique le gardien de but Gauthier Gallon.
Voilà, c'est beaucoup de joie, d'émotion, c'est un moment incroyable, indescriptible. On a réalisé le rêve. Et voilà, d'être champion de France, c'est quand même quelque chose de magnifique, de pouvoir évoluer maintenant au plus haut niveau français. Et puis c'est une libération, voilà, de 10 mois de travail. C'est tout ça, quoi. C'est la pression qui retombe, c'est la joie, c'est la joie.
Côté Ligue 1, le PSG est à Rennes ce soir, victoire obligatoire pour croire encore au titre. On glisse tout seul vers notre esprit sport. Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
Vous nous parlez ce matin d'une skateuse qui pourrait bien faire partie de la première équipe de France de skate au JO de Tokyo. Cette jeune femme, c'est Charlotte Hym. Elle dispute aujourd'hui le championnat de France de skate street à Biarritz.
Et si on parle de la première équipe de France à Tokyo, c'est tout simplement parce que le skate fait son entrée aux Jeux Olympiques. Charlotte Hym, elle a 28 ans et plusieurs titres de championne de France. Et comme tous les sports, elle a dû s'adapter face à la situation sanitaire, entre compétitions annulées, modification des réglementations pour aller chercher la qualification. Mais heureusement, l'adaptation est une caractéristique du skate, dit-elle.
On s'entraîne tous dans des endroits qui sont différents. Puis quand on arrive dans un skatepark pour une compétition, il n'y a pas les mêmes hauteurs de marche, pas les mêmes hauteurs de rail. Les trajectoires sont peut-être différentes. Et très rapidement, il faut qu'on s'approprie l'endroit, qu'on s'approprie le skatepark, qu'on construise des lines, donc c'est des enchaînements de figures, pour présenter devant les juges qui vont mettre les notes. Du coup, c'est vraiment la capacité d'adaptation qui va être mise à l'épreuve.
Alors, ces prochaines semaines, elle va enchaîner les compétitions jusqu'au championnat du monde street, comprenez rue, c'est sa spécialité. Depuis qu'elle a accepté de rejoindre la nouvelle équipe de France en vue de la qualification olympique, tout s'est réorganisé dans sa pratique sportive avec notamment des entraînements très différents. Et pourtant, quand elle a commencé le skate vers l'âge de 12 ans, elle n'y aurait pas pensé.
Déjà, je faisais du skate juste dans la rue avec mes amis pour le fun. On voulait pas du tout d'un environnement de club ou d'un environnement restrictif. On avait bien notre liberté, choisir les figures qu'on voulait faire, le pratiquer comme on voulait. Et jamais de la vie. Déjà, j'avais jamais pensé en faire en compétition quand j'ai commencé. Et ensuite, aller jusqu'au JO, pas du tout. J'y avais jamais pensé. Je suis contente, mais c'était pas ce que j'avais envisagé au tout début.
Alors cette saison, la Parisienne se consacre uniquement au skate, mais jusqu'à novembre 2019, elle jonglait entre les entraînements, les compétitions et la préparation de son doctorat, parce que Charlotte Hym, elle a soutenu une thèse en neurosciences cognitives et fait de la voix, de la langue maternelle et de l'odeur maternelle sur la mobilité quadrupède du nouveau-né. Allez, encore quelques semaines de patience avant de connaître la liste officielle des qualifiés en skate pour Tokyo. Et pour ceux qui voudraient se faire une idée, je ne peux que vous inviter à jeter un œil aux nombreuses vidéos et images que Charlotte Hym partage régulièrement en ligne.
Une thèse sur les neurosciences et championne de skate, j'ai encore du boulot. Merci Laetitia Bernard.
Hélène Roussel pour le journal Le Temps de ce dimanche.
La météo avec Air France Protect. Réservez avec la plus grande flexibilité et voyagez en toute sérénité sur l'ensemble des vols Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Air chaud, attention aux orages, Jean-Michel Golinski.
Dans un flux de secteur sud puissant vers 70 km à l'heure sur la plupart des régions, jusqu'à 90 en vallée du Rhône et sur le massif central, 110 dans le couloir de l'OTAN sur les crêtes pyrénéennes et le Piémont, l'air chaud qui remonte sur le pays va donner cet après-midi des températures de 26 degrés en moyenne au nord comme au sud, avec, comme en plein été, des orages qui vont éclater à l'ouest d'un axe Charleville-Marseille. Ils vont déjà se former en journée du sud-ouest au centre, à la Normandie et à la frontière belge, mais la plus forte activité orageuse, avec de fortes bourrasques et de la grêle, est attendue en fin d'après-midi dans le quadrilatère Biarritz-Tarbes remontant vers Limoges et La Rochelle. Dans cette zone, 10 départements sont pointés en vigilance orange pour les orages forts prévus en fin de journée. Notez que sur les régions les plus à l'est, le soleil aura encore de belles heures devant lui.
Jean-Michel Golinski, Météo France. Dans 3 minutes, Aldo Nauri et Eva Bétan, invités de la matinale, voici High Flying Birds d'abord.
Living the dream, but when the morning comes, you're gonna meet your maker. Good luck in the afterlife. I hear the morning sun doesn't cast no shadow. You chose to drift away. Look at you now.
We are on our way now, extrait du prochain album de Noël Gallagher et son groupe High Flying Birds, c'est à paraître le 11 juin prochain. À 8h20 bientôt sur France Inter, à suivre les invités de la matinale.
France Inter, Éric Delvaux, le 6-9 du week-end.
Et question ce matin sur le rapport que nous entretenons avec nos mères et nos mamans. crois que c'est un sujet qui va résonner chez pas mal d'auditrices et d'auditeurs. C'est le thème de votre dernier livre, Aldo Nahouri, bonjour.
Bonjour.
Faut-il rappeler que vous êtes célèbre pédiatre, spécialiste des relations intrafamiliales, un thème auquel vous avez consacré bon nombre de livres, dont le dernier en date, qui a pour titre « Ma mère, mon analyse et la sienne » aux éditions Odile Jacob. Et à vos côtés, notre consoeur de France Inter. Bonjour Eva Bétan.
Bonjour.
Alors vous aussi, vous donnez à réfléchir sur les liens avec nos mères et vous avez interrogé quelques personnalités ou des anonymes sur les recettes de nos mères. Ça s'appelle « Le goût de nos mères ». C'est aux éditions Stock France Inter. 70 recettes comme 70 déclarations d'amour, des recettes dites maternelles. Aldo Nahouri, c'est sans trop de surprise que c'est par le prisme de la psychanalyse que vous êtes allé explorer les liens qui vous unissent avec votre mère. Vous racontez dans ce livre qu'avec vos frères et sœurs, votre mère, petit à table, c'était en Libye d'abord, à Benghazi... Il y avait toujours de la place pour raconter ses rêves. Je précise ça parce que la mémoire, chez vous et dans votre famille en général, ça a toujours été important.
La mémoire, c'était pas seulement moi, c'était quelque chose de tout à fait qui était partagé. Ce que je veux dire, c'est que si j'entre dans ce livre par la psychanalyse, c'est parce que c'est un livre que j'ai commencé, non pas du tout à mon initiative, mais à la demande de mon épouse, en 2012. 3 mois avant son décès.
Avant le décès de votre mère?
Non, avant le décès de ma femme.
Son décès. Elle,
Et si vous voulez, j'avais programmé 9 chapitres, j'en ai écrit 5, qu'elle a lu et qu'elle a toujours tous trouvé merveilleux. Mmh. Elle est morte quelques semaines après la demande de l'écriture. Et... j'ai laissé tomber ce livre, c'était pas possible pour moi de continuer de l'écrire, pour une raison simple, c'est qu'il commençait par le décès de ma mère, le premier chapitre, un très long. C'est non seulement le décès, mais l'enterrement de ma mère. Et là, entre l'enterrement de ma mère et l'enterrement de ma femme, il n'y avait pas comme une mesure. Ouais. Celui de ma mère était loin, etc. Celui de ma femme était terrébrant.
Un mot.
Donc je ne pouvais plus du tout écrire là-dessus. Mais j'avais une dette à son endroit, il fallait que j'écrive ce livre.